Session de philosophie sur la personne par le père Philippe, le 12 juillet 1989, à Saint-Jodard.
C'est la troisième journée. Ça doit être normalement celle où on entre le plus. Au début, il faut un dégrossissage un peu. N'est-ce pas ? C'est pas toujours commode. Le moteur est froid. Maintenant, vous pouvez entrer dedans. Tu restes. On va être à pied d'œuvre tout à l'heure. Quelques questions. Est-on une personne humaine à partir du moment où l'on pose des actes libres? La manifestation de la personne se fait par nos opérations. On verra ça, mais je réponds tout de suite. La manifestation. Parce que, à quel moment on est une personne, c'est quand on peut en poser, mais qu'on les pose peut-être pas en acte. Et un handicapé mental, ce qu'on appelle les handicapés, on ne sait pas ce que c'est. Parce que justement, il n'y a pas de manifestation. Vous n'êtes pas handicapé, je ne le suis pas. Donc, qu'est-ce qu'un handicapé saisit exactement? Je ne le sais pas. Je peux essayer de comprendre. Vous me parlez. Vous dites, ah, je vous comprends. Je ne vous comprends pas. Quand vous me dites, je vous comprends, bon, ça y est, on se dit, il y a une communication. Ça va? Donc, ce que je pense, j'espère que vous le pensez. Puisque vous me dites que vous le comprenez. Si vous dites, ah non, je ne comprends pas, bon, on essaie d'expliquer. C'est pour ça qu'il y a des questions. On essaie d'expliquer. Parce qu'on peut manifester. On parle. Celui qui peut très peu parler, celui qui a des gestes anormaux, inharmoniques, comme c'est difficile de savoir exactement ce que lui reçoit. Il y a une personne humaine, imparfaite si vous voulez, on dira. Une personne qui ne s'est pas beaucoup développée. Quand on dit, ah, il a la psychologie de personne de 15 ans. Combien de fois j'ai entendu ça, hein? Ah oui, cette personne, oui, oui. Elle a 22 ans, mais psychologiquement, 14 ans. Au nom de quoi on dit ça? Ça m'éprouve toujours quand on dit ça. Parce qu'on porte un jugement de valeur. On pourrait dire, oui, dans sa manifestation. Dans ces manifestations, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a 14 ans. Mais il ne peut pas savoir plus. Oui, au fond, on juge tout le temps au-delà de ce qu'on peut savoir. Et tout le temps comme ça. C'est là où la philosophie doit être farouche pour sauver la dignité de la personne. Bon, vous voyez, on y reviendra là-dessus. Donc c'est vrai au point de vue manifestation. Acte libre, je dirais acte responsable. Un embryon est-il une personne humaine? Et un enfant qui vient de naître, à partir de quand est une personne humaine? Là encore, on y reviendra. Un embryon est une promesse d'une personne humaine. Donc, intentionnellement, c'est une personne humaine. Métaphysiquement, ça doit être une personne humaine s'il n'y a pas d'obstacle. Donc, virtuellement. Et virtuellement, dans le sens très profond, la source y est. Est-ce qu'une source est un fleuve. Vous voyez, c'est la même chose. Tout y est pour que. Mais quantitativement, dans le développement, ce n'y est pas encore. Donc, l'embryon a une richesse d'attente, de promesse. Un enfant qui vient de naître, lui, a déjà une autonomie beaucoup plus profonde. Ce qu'il peut vivre. Si on lui donne la nourriture. Si on prolonge ses mains. Il peut vivre. Il est encore très dépendant. Alors l'indépendance. Il y a des personnes qui resteront dépendantes toute leur vie. Et qui sont des personnes humaines. Ils restent dépendants affectivement. Ils auront besoin toujours d'une nounou. C'est possible, c'est pas. Après tout, quelquefois ils ont des richesses beaucoup plus que les autres. C'est très curieux, hein, le développement de la personne. C'est multiple. C'est pas un seul type. C'est ça que j'ai peur. Avec la psychologie qui donne des mesures. Oh, si vous ne passez pas tel cap, vous n'êtes pas une personne. Vous n'avez pas le type de la personnalité dite psychologiquement parfaite. Personne d'entre nous n'a ce type de la personnalité psychologiquement parfaite. On a tous des lacunes. Oui, au fond, c'est tout le problème de voir la personne humaine et le devenir de la personne humaine. Ça, nous le verrons, mais ça pose le problème, ça. Est-ce la même chose de parler de l'homme ou de la personne humaine? Alors je dirais oui, l'homme concret, la personne humaine concrète. Parce que l'homme est une personne. Et si l'homme est une personne, il est une personne humaine. Alors, j'explicite en disant personne. Mais c'est impliqué dans l'homme. Alors, je continue très rapidement cette petite topique historique qui est faite pour nous montrer la complexité du problème de la personne. Des points de vue très différents. Alors je complète rapidement, je vous avais dit avec Nedoncel, la réciprocité des consciences. En réalité, la réciprocité n'est pas seulement la voie la plus facile, puisque pour Nedoncel, la réciprocité aimante est la cause même de l'identité personnelle. Ça, c'est plus difficile à bien comprendre. C'est dans le livre « La réciprocité des consciences ». Loin de se définir par l'incommunicabilité, la personne requiert au contraire la définition opposée, car elle est seule à être communicable. Les anciens, voyez, l'incommunicabilité, l'autonomie, le caractère ineffable de la personne. Les anciens voient juste l'opposé. La communicabilité. Vous êtes une personne dans la mesure où vous êtes communicable. Tout ce qui en vous est incommunicable est individuel et n'est pas personnel. Au fond, il y a cette idée-là. Car elle est seule à être communicable. Et l'autre, loin d'être une limite du moi, est une source du moi. Je vous lis ce passage. Un sujet n'est une personne que si traversant l'objectivité brute propre au savoir animal, il en vient à prendre la subjectivité même pour l'objet, c'est-à-dire à connaître autrui et à se connaître comme un centre qui est au-delà de la qualité. Pas commode à comprendre. pouvez méditer longuement là-dessus. Mais donc ça n'est pas très clair. Il est mort maintenant, alors on peut le dire, avec tout le respect que je lui dois. Donc c'était un prêtre vénérable. J'aimais beaucoup comme prêtre. Un homme, une personnalité très respectable. C'était la respectabilité des consciences, la réciprocité des consciences. Très respectable. Mais c'est un peu de la vaseline. Vous voyez, c'est pas très très net comme je vous relis. Hein, pour que vous arriviez à comprendre. Un sujet n'est une personne que si traversant l'objectivité brute propre au savoir animal. Le savoir animal, je ne sais pas ce qu'il est. Quel est le savoir animal? La vache qui regarde le TGV. L'objectivité brute. C'est-à-dire que le TGV doit l'écraser. Alors là, c'est l'objectivité brute. J'aime pas beaucoup ça parce que je sais pas ce que c'est. L'objectivité brute, je sais pas ce que c'est. Quand je connais quelque chose, je le connais toujours à travers ma subjectivité. Mais je suis capable, si je suis intelligent, de distinguer ce qui vient de moi et ce qui vient de l'autre. Donc l'objectivité se démarque à travers la subjectivité, c'est bien évident. L'objectivité brute de l'animal, mais qu'est-ce que c'est ? Ben, je pourrais dire qu'au contraire, l'animal est dans une subjectivité brute. Est-ce que l'animal, quand il connaît quelqu'un, est-ce qu'il ne le connaît pas pour le manger ? Le lion, ou la lionne, puisque c'est la lionne qui chasse. La lionne, quand elle connaît le petit animal, elle le connaît quand elle le mange. Objectivité brute. C'est une subjectivité brute. Je crois que l'animal ne peut pas faire le discernement entre objectivité et subjectivité. Alors projeter sur l'animal l'objectivité brute, pour moi ça n'a pas de sens. La connaissance instinctive, la connaissance passionnelle, mais elle est premièrement subjective. Quand quelqu'un dit « je t'aime », tellement que vous le prenez, vous le tuez, parce qu'on l'aime tellement qu'on l'embrasse. C'est Sartre qui dit ça, n'est-ce pas ? J'aime quelqu'un quand je l'embrasse. Et Sartre dit ça en disant, je n'aime pas cette philosophie de l'assimilation objective. Réfléchissez un tout petit peu. Dès que vous connaissez quelqu'un, c'est la connaissance, mais vous le connaissez à travers un halo affectif. Et vous dites assez souvent, « Ah, maintenant je te connais, parce que je t'aime. » Grâce à l'amour que vous avez pour quelqu'un, vous arrivez à le connaître objectivement. L'objectivité se démarque à travers la subjectivité. Vous savez, c'est assez récent, cette distinction objectivité-subjectivité. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir à quel moment c'est né. Saint Thomas ne fait jamais ça. Dans la lucidité de la connaissance, je dis, je précise l'objet. Je ne précise jamais l'objet pour ma connaissance passionnelle, affective. Jamais. C'est la connaissance intellectuelle. Donc un sujet n'est une personne que si, traversant l'objectivité brute propre au savoir animal, il en vient à prendre la subjectivité même pour objet. Prendre la subjectivité même pour l'objet, c'est-à-dire me regarder connaissant. Fait partie de la critique. C'est-à-dire à connaître autrui et à se connaître comme un sens qui est au-delà de la qualité. Maurice Denoncel précise cependant que la réciprocité humaine ne fait pas surgir de toute pièce l'existence personnelle, qu'elle trouve le germe personnel comme une donnée, et que sa causalité consiste à ratifier et à promouvoir. S'il y a une notion de personne, il n'y a pas d'idée générale de la personne. Cependant, si on contemple l'expérience du moi et du toi, avec le tour d'esprit qui convient à la nature, la personne ressemble à une idée et la communion à une participation objective. Oui, c'est très difficile à préciser exactement. Donc, ce qui est intéressant dans cette idée de Denoncel, c'est qu'on ne peut jamais se connaître seul. On se connaît à travers un autre. Ce qui est assez juste. Mais l'autre ne fait pas partie de la connaissance de moi. Mais c'est l'occasion de se connaître. C'est qu'on dira toujours ça à un ami. Grâce à toi, je me suis connu. D'une façon beaucoup plus objective. C'est très vrai, ça. L'autre me permet de me connaître. Alors, dire que la personne, c'est la réciprocité des consciences, ce n'est pas tout à fait juste. Que l'occasion de connaître sa personne, c'est la réciprocité des consciences, oui. Mais l'occasion de se connaître n'est pas la connaissance qu'on a de soi. Alors, dernière position, celle de Maritain. Ce serait très intéressant. Très intéressant de regarder la position de Maritain. Je ne vais pas, ça prendrait tout le cours. Je ne veux pas faire ça. Maritain s'est intéressé à partir de Mounier, du reste. Il faudrait voir toujours Maritain et Mounier. Mounier, le fondateur de la revue Esprit. Mounier est quelqu'un de très spirituel. Ce qui l'intéresse, c'est le problème de la personne et de la communauté politique. Et chez Maritain, le problème de la personne s'est situé aussi de cette manière. Essayez de comprendre comment la personne dépasse la communauté politique. Et ceci se pose évidemment avec certains problèmes politiques de ce temps. N'oublions pas que Maritain et Mounier se trouvent devant certains problèmes d'une communauté tyrannique totalitaire. Le marxisme, et puis pour Maritain, l'opposition du nazisme. Deux positions totalitaires opposées, totalement opposées. Dans ces positions, aussi bien la position du marxisme, du communisme intégral, qui se veut intégral. On pourrait prendre Mao aussi. Vous auriez trois positions à étudier, politiquement, très intéressantes. On est en face d'une position communautaire totalitaire. D'une autre manière, Mussolini, d'une autre manière, en Espagne. Et cinq positions totalitaires, avec des nuances énormes. Je ne mets pas ça dans le même sac. Mais Justement, ça nous permettrait de mieux comprendre la réaction de Mounier et la réaction de Maritain. Je prends la position marxiste, c'est la plus claire, celle qu'on comprend le mieux. L'homme est parti d'une communauté politique qui fait l'absolu. Donc, la personne est relative à l'État. La personne est relative à la communauté politique. Entièrement. La liberté personnelle et individuelle est extrêmement limitée. Puisque même la famille est relative à l'État. Dans les kibboutz juifs d'Israël, il y a eu des essais. Je les ai vus. Je ne dis pas que je les ai expérimentés, mais je les ai vus. Première visite que j'ai faite là-bas en Israël, j'ai visité des kibboutz religieux où il y avait un socialisme absolu. C'était pas le marxisme de Marx, mais c'était un socialisme absolu. L'éducation, parce que c'est toujours à propos de l'éducation qu'on doit voir ça, l'éducation était une éducation d'État. On prenait les enfants quand ils étaient nés. Si on avait pu avoir une couveuse électrique politique, on l'aurait eu. Ça aurait été mieux. On aurait surveillé la couveuse politique. On tend vers ça, il ne faut pas l'oublier. Dès que l'enfant était né, tout de suite, c'était l'enfant pour la communauté. L'enfant n'était pas premièrement pour les parents, mais pour la communauté. Et on jugeait que les parents, quand même, avaient un certain droit sur l'enfant, on donnait 2 heures. L'enfant à la mère et au père. 2 heures. Surtout pas la nuit. Et on faisait ça pour éviter, du reste, soi-disant, pour éviter tous les conflits familiaux, surtout les conflits avec l'autorité. Et on formait l'enfant pour la communauté politique, dans un socialisme intégral, religieux. Je suis retourné assez souvent du reste en Israël, mais j'ai revisité un kibboutz religieux 10 ans après. Puis on a le topo, et celui qui faisait ce topo était un Espagnol, nettement, qui était catholique, et qui était là-bas revenu à sa religion juive. Après le topo, il n'a rien dit sur la famille, puisqu'on pouvait poser des questions. Je lui ai posé la question, où en est l'éducation politique et familiale? Il a souri en me regardant. Il a dit, bonne question, père. On a vu que confier l'enfant uniquement à l'aspect communautaire, comme donc socialisme intégral, faisait que l'enfant se développait beaucoup moins vite. Donc au niveau de l'efficacité, on est revenu à cette position. Et on a laissé l'enfant à la famille jusqu'à 14 ans. À 14 ans, pour éviter les conflits entre fils et père et fille et mère, l'État prenait un droit absolu sur les enfants à 14 ans. Et il allait rendre des visites d'une heure tous les jours. Une heure ou 2 heures, mais je crois 1 heure. Pour éviter les conflits. Alors j'ai simplement dit, je reviendrai dans 10 ans pour voir si on évite les conflits. Alors il a souri, parce qu'il était tout à fait de bonne composition. Vous voyez, c'est l'éducation. montre le rôle des parents. Et l'éducation d'État aboutit à une éducation beaucoup moins efficace. L'éducation nationale, dite nationale, est un manque d'efficacité. On le voit aujourd'hui. Il y a une baisse très très nette. Parce que l'éducation ne peut pas être nationale. Elle est familiale. Je sais bien qu'en disant ça, je me fais couper la tête avec le bicentenaire. N'est-ce pas ? Mais ça fait rien, je le dis au nom de la philosophie. Parce que vous allez voir, le bicentenaire, c'est pour une recrudescence de l'éducation nationale. Il y a une finalité là-dedans. Il ne faut quand même pas être bête. Il faut la voir. Il faut la sentir. C'est pour, de fait, reprendre une éducation nationale, socialiste. Eh bien, on sait que c'est inefficace. Et on ne veut pas le voir. L'idéologie empêche de regarder les résultats et de comprendre ce que tous les anciens disaient et ce que la culture européenne a dit par le point de vue chrétien. Parce que le point de vue chrétien a insisté davantage sur le point de vue de la famille par le sacrement. Le sacrement de mariage, vous voyez, sacralise la famille, ce qui est affreux pour un socialiste. C'est immonde. La famille doit être libre, l'union libre. Et donc, si c'est l'union libre, c'est l'État qui prend les enfants. Parce qu'on ne peut pas prendre les enfants d'un autre mariage, ça ne va pas, ça fait des conflits. Alors il faut bien voir ça, il faut comprendre ce qui se passe d'une façon souterraine. Ce n'est pas dit ouvertement parce que ça ferait bondir les gens. Mais on doit comprendre. On doit comprendre que supprimer l'école libre, c'est couper l'école de la famille et la mettre sous le contrôle de l'État. Et que l'État forme des petits citoyens conformes à l'État socialiste. Je n'ai rien contre le socialisme, mais j'ai la grosse dent par rapport à la famille. Vous voyez ? Le socialisme ne respecte pas assez la famille dans ses droits fondamentaux qui sont naturels. Qui sont naturels. Il ne respecte pas la sacralisation de la famille par le sacrement de mariage. Là, il faut être farouche. Il faut être farouche. Il faut voir les choses. Et on n'a pas le droit d'y coopérer si on est chrétien. Le Concile Vatican II l'a dit en toutes lettres. Donc, comprenons bien. Il s'agit de comprendre les choses profondément. Et ceci, c'est pour respecter la personne. Bon, ceci dit, entre parenthèses, hein, mais ça fait partie de la philosophie, puisqu'on ici, on est d'un point de vue politique. Justement, la politique intéresse le philosophe. Et le philosophe doit s'intéresser à la politique. Et le philosophe doit dénoncer les régimes totalitaires. Même quand ils sont très enveloppés, soi-disant, d'un humanisme. Alors, au nom d'une économie sociale, on tue la personne, parce qu'on tue la famille. Il y a un primat social qui peut être condamnable quand ce social n'est pas lié à la famille. Parce que la famille passe avant le social. Le social est relatif à la famille. Il n'y a pas d'absolu au point de vue social. Des régimes différents, avec leurs injustices tous. Les injustices sociales, les injustices du parti opposé au socialisme. Il y a aussi des injustices. Des injustices qui sont toujours voilées, cachées. Et dès que le régime n'est pas là, on les met en pleine lumière. Les injustices sociales, il n'y a pas d'absolu au point de vue social. On doit tendre vers une justice sociale la plus juste qui soit. Mais l'aspect économique est au service de la famille pour permettre à la famille d'exister. Et l'aspect économique doit être contrôlé par l'État pour permettre à la famille de vivre. Parce que c'est la famille qui représente un certain absolu. Alors, Mounier comme Maritain se sont opposés à tout régime totalitaire. C'est la grandeur de Mounier et la grandeur de Maritain. Mais l'un et l'autre n'ont pas été assez loin. Alors c'est là où je veux regarder la position de Maritain. Maritain, pour montrer que la personne n'est pas totalement relative au bien commun de la communauté politique, va faire une distinction entre personne et individu. En disant, l'individu est relatif au bien commun de la communauté politique. Et la personne, elle, dépasse. Donc, distinction entre individu et personne. Je grossis un tout petit peu la position de Maritain. Mais en gros, c'est ça. L'individu est relatif à l'État et la personne est au-dessus de l'État. Je crois que c'est faux comme distinction. Le père de Haut, que Maritain a très bien connu, une fois je lui parlais de cette question de l'individu et de la personne. Je lui disais, j'aime pas du tout cette distinction de Maritain. Le père de Haut a éclaté de rire en me disant, mais c'est moi qui ai dit à Maritain de faire ça. Alors on a discuté ensemble, et le père de Haut était tout à fait d'accord que cette distinction n'était pas juste. Distinction individu et personne, vous comprenez, n'est pas une distinction philosophique. C'est une distinction théologique pour le mystère du Christ. Dans le mystère du Christ, je distingue individu par le corps formé en Marie et personne, le Verbe. C'est une action théologique. Mais en vous, en moi, individu et personne, ma personne assume totalement mon individualité. Rien n'est plus individuel qu'une personne. C'est bien évident. Donc je ne peux pas faire cette distinction. La personne commence par un individu. Le premier moment de la fécondation, c'est l'individu qui commence. Le chiffre biologique, c'est l'individu. Il est entièrement assumé par la personne. C'est vrai que je peux distinguer que l'individu vient du corps et la personne vient de l'âme spirituelle. Il y a deux sources différentes, non pas dans le Christ, mais en moi. Il y a deux sources différentes. La personne relève de l'âme spirituelle et l'individu relève du corps. C'est très vrai, mais dans une unité. Unité d'être. Donc, je ne peux pas admettre cette distinction de Maritain. Comment je pourrais sauver l'intention de Maritain ? Ça, c'est intéressant. C'est par le point de vue de la finalité. Il y a certaines finalités personnelles qui dépassent le bien commun politique. Et il y a des finalités personnelles qui m'engagent entièrement dans la communauté politique. Et ceci, puisque Maritain veut être thomiste, et ceci est conforme à la position de saint Thomas. pour saint Thomas, homo, ut homo, ers est pars, communitatis. Je traduis, l'homme, en tant qu'il est homme, c'est bien la personne humaine. On a dit tout à l'heure, l'homme et la personne humaine identiques. L'homme comme homme est partie de la communauté politique. Pars de la communauté politique. Donc, est ordonné au bien commun de la communauté politique. Donc, je ne peux pas distinguer individu et personne. Je fais partie d'une communauté en tant que je suis une personne. C'est bien évident. C'est pas en tant que je suis une brute. Alors qu'il y ait des brutes dans la communauté politique, on le sait, ça c'est évident. Et on pourra voter avec une brute d'un côté. Il y a des gens qui ne votent parce qu'ils sont téléguidés. On leur a mis un billet dans leur poche, tu voteras comme ça. Ça, c'est la brute. On a acheté son vote. On sait très bien qu'on achète les votes. Alors, c'est plus un vote humain. C'est très vrai. Ça, c'est l'inconvénient du suffrage universel. Alors, si on pouvait purifier le suffrage universel, on dirait, il y a les votes des brutes, on les néglige. Et puis, il y a les votes personnels, où il y a un choix politique. Vous faites un choix politique quand vous votez. C'est sûr, on fait un choix politique. Et le vote n'est vrai que quand il y a un choix. Quand il n'y a pas eu de choix et qu'on a été téléguidé, c'est la brute. Ça, autre chose. Mais c'est important d'y penser, dès qu'on fait une philosophie politique. Donc, l'homme comme homme et comme personne humaine fait partie de la communauté politique. Mais il y a dans l'homme, en tant qu'il a une âme spirituelle, il y a une finalité qui dépasse l'aspect politique et qui relève en effet de la personne humaine. Qu'est-ce qui dépasse le bien commun? L'homme qui choisit la contemplation, la vie religieuse contemplative est au-dessus du bien commun politique et l'État doit le respecter. C'est un État humain. L'État doit respecter le point de vue religieux. Et dans le point de vue religieux, il peut y avoir l'aspect religieux chrétien qui implique la vie religieuse. La vie religieuse est un petit état dans l'état. Et le religieux comme tel accepte de ne plus avoir de droit politique. Et l'état doit le reconnaître. Et si le religieux vote, c'est parce que l'Église le demande. En tant que religieux, il ne devrait plus voter. Et donc, il doit voter dans l'obéissance à l'Église. Et l'obéissance à l'Église, c'est d'accepter un régime qui respecte l'aspect religieux et la liberté profonde de l'homme. C'est important de se rappeler ça. Le point de vue de l'Église, c'est le point de vue de la liberté de l'homme dans le point de vue religieux. Donc, l'homme, dans sa finalité contemplative et religieuse, dépasse le point de vue du bien commun. Donc c'est vrai qu'il y a dans la personne humaine quelque chose qui transcende le bien commun politique. Deuxièmement, l'amitié. Le choix libre de ses amis, c'est au-delà du bien commun. L'amitié ne fait pas partie du bien commun. C'est la concorde des citoyens. Et la concorde des citoyens n'est pas l'amitié. La liberté de se marier. la liberté du planning familial. L'État doit respecter que la famille seule est libre pour le nombre d'enfants. Un État comme l'État chinois qui n'accepte qu'un seul enfant, c'est contraire à ce que représente la liberté de la personne. Même pour un équilibre économique, l'équilibre économique est soumis à quelque chose de plus grand qui est le développement de la personne humaine. Vous voyez, voilà les finalités qui dépassent le bien commun, où la personne humaine doit maintenir coûte que coûte sa dignité de personne. Ça fait partie de la dignité de la personne. C'est pour ça que la distinction individu et personne n'est pas adéquate. C'est pas une bonne division. C'est une division théologique appliquée à la philosophie. Et alors, il y a là quelque chose qui ne va pas. Il faut redécouvrir la personne face à la communauté politique. Et la personne face à la communauté politique doit revendiquer qu'elle est spirituelle, qu'elle a une fin spirituelle. La contemplation. Et l'amitié humaine, et donc le mariage, qui représente un type d'amitié particulier, avec la procréation. L'État n'a aucun droit sur la procréation. Aucun. La procréation, le droit, c'est les parents, dans leur amitié. Alors l'État peut dire, ah oui, vous savez, c'est très difficile, il y a trop d'enfants, il n'y en a pas assez, l'État peut. Mais la génération Mitterrand, vous comprenez, c'est un sophisme complet au point de vue philosophique. Parce que Mitterrand n'est pas une génération. Et Mitterrand, ça pourrait être Giscard. Hein. Le chef d'État ne peut pas être source de fécondité. Ou dans le nazisme, Hitler ne peut pas dire ça, ne peut pas être source. Parce qu'on a enfanté des enfants pour Hitler pendant la guerre. Vous voyez, c'est très curieux, comme le chef d'État veut être père au bout d'un certain temps. Il veut être père. Il y a une espèce de nostalgie de la paternité. Plus il tue les pères, plus il veut être père à leur place. C'est très important de comprendre ça, parce que ça fait comprendre le problème de la personne. Si votre système politique ne respecte pas entièrement la paternité et la personne humaine, vous allez voir que le chef d'État peut être le père de toute la nation. Oui. Donc il reprend la place du roi qui est père de la nation. Parce que la royauté a toujours eu ça, cette nostalgie d'être père. Je m'arrête là, au point de vue topique. Vous voyez la complexité du problème. Et quand vous êtes en face de Maritain, qui se dit thomiste, vous suivez Maritain, non, mais Maritain est un brave homme, c'est un saint homme, c'est un chrétien, donc ce qu'il dit doit être vrai. Eh bien non, ce qu'il dit n'est pas vrai. Il faut avoir le courage de le dire. Je comprends très bien la réaction. La même chose Mounier. Mounier n'a pas été assez loin pour sauver la personne. Il a voulu sauver la personne par l'esprit. C'est très bien d'être spirituel. Mais on doit sauver la personne jusque dans le corps, jusque dans l'individu. Donc, tout le problème de la procréation, tout le problème de la famille. Ce que Maritain ne sauve pas assez, et ce que Mounier ne sauve pas non plus assez. Alors, en face de cette complexité, puisque je fais de la philosophie aujourd'hui, et je dois donc comprendre qu'en face de toutes ces positions multiples et diverses, je réfléchis un instant, je vois que, de fait, en face de toute cette diversité, je ne veux pas la ramener à l'unité, mais je vois que le problème de la personne, s'est posée en premier lieu en éthique. Ça. Puis politique. Puis philosophie première. Un, deux, trois. Je crois qu'il y a trois lignes de force pour le problème de la personne. Trois lignes de force. La vision éthique de la personne, la responsabilité. Ça, ça me semble très net. La personne implique une responsabilité. Le problème politique, la personne et le bien commun. Elle a des positions diverses. Est-ce que le bien commun politique ne met-il pas en pleine lumière la transcendance de la personne. J'ai toujours besoin, vous voyez, d'une ombre qui montre la lumière. Hein. Alors, pour un tableau artistique, philosophique de la personne, j'ai besoin du bien commun politique pour mettre en pleine lumière la personne. Ou au contraire, enfermer la personne dans le bien commun politique. Alors, c'est l'oubliette de la personne. Complètement enfermé dedans. Un régime socialiste, pas du tout le socialisme français, qui on ne sait plus très bien, aujourd'hui droite et gauche, à part le marxisme, on ne sait plus très très bien, parce que ceux qui veulent être à droite à fond deviennent plus quelquefois tyranniques que les autres. Alors on a un régime éclectique, on ne sait plus très bien. Et c'est vrai pour l'Europe. C'est dommage, parce qu'on ne sait plus très bien où on va. Mais je peux réfléchir. C'est l'avantage d'un régime qui laisse la liberté de réfléchir, jusque maintenant. Parce que si le socialisme se durcit, il ne permettra plus une réflexion, de réflexion libre. Et surtout de le dire. Mais le marxisme ne le permet pas, sauf maintenant, il commence à s'assouplir. Alors, on ne sait pas jusqu'où. Mais sûrement que le régime marxiste ne permet pas une réflexion libre. Donc, tue la personne. En philosophie première, l'hypostasis. On a vu ça. La personne, hypostasis. La personne, substance. Donc, ça fait appel à la philosophie première. Je vois très bien qu'il y a, alors, mettez un quatrième pot. Point de vue psychologique. Alors la psychologie veut à tout prix arriver à une conception de la personne psychologiquement parlant. Charlottier. C'est très intéressant, du reste. Charlottier, Max Scheler, au-delà de la psychologie. Alors, cinquième position. La position du vécu. Réflexion. Sur le vécu. Une réflexion sur le vécu. La position de Scheler, qui est importante et intéressante. Je crois qu'on peut dire, vous voyez, alors, il y a deux grands axes, en réalité. Éthique et philosophie première. En opposition, l'aspect politique du bien commun que la personne doit assumer. Et puis, des positions d'approche psychologique et féminologique. La féminologie de Marcel, le vécu, la réflexion sur le vécu. Je crois que ça correspond bien à cinq grandes positions. En réalité, on voit très vite qu'il n'y en a que deux qui tiennent la route au point de vue philosophique. Les autres sont intéressantes, je ne les supprime pas. Mais je dirais que la psychologie n'arrivera jamais à dire ce que la personne. Je sais qu'elle cherche. Je sais qu'il y a des groupes psychologiques qui veulent atteindre la personne humaine. Mais je dis, ça n'atteindra jamais. Et l'aspect réflexion féminologique n'atteindra pas non plus. Donc retenez de cette topic cela. Maintenant, je vais commencer avec vous à réfléchir philosophiquement sur la personne. Petite réflexion, mais très très rapide. Je l'ai déjà faite, donc ça va être très vite. Sur le nom. Quand est né le mot personne? Qu'est-ce que signifie le mot personne? L'étymologie, c'est toujours intéressant. On l'a vu. Prosopone, grec. Hypostasis, grec, les deux mots. Le personnage, dans le drame, lié à tout son destin, on nomme la personne. La personne, on la nomme. Carte de visite. Je m'appelle, c'est ma personne. Et si je regardais les traditions religieuses, je verrai le nom de Dieu. Le nom. La personne divine se traduit à travers le nom. C'est quand même très curieux, le nom. Qui est comme un ersatz de la personne. Quand vous donnez votre carte de visite, c'est parce que vous ne pouvez pas être dans différents lieux. Quand vous donnez votre carte de visite, vous donnez votre photographie. Comme ça, tu penseras à moi. Et la photographie représente quand même quelque chose. Le magnétisme se sert de la photographie pour atteindre la personne. Qu'est-ce que c'est qu'exactement? Qu'est-ce que ça correspond? Philosophiquement, c'est un problème important. Comment puis-je agir sur une personne? Comment puis-je la muter, la changer? Quand je constate un déséquilibre dans une personne, quelqu'un qui a du fluide magnétique, ou en quantité, non, on en a tous, mais on l'utilise plus ou moins. Alors, à ce moment-là, on agit sur la personne, en ouvrant les portes, ou en les fermant. N'est-ce pas ? Donc, le nom. Le nom reste au seuil de la philosophie. Quand vous prenez le point de vue du nom, c'est très intéressant, mais vous ne pouvez pas vraiment aboutir à la réalité. Vous êtes en face d'un signe conventionnel, mais qui a un fondement naturel. La philosophie, je la reprends à partir de mon expérience. J'ai l'expérience de ma personne. Je l'ai grâce à un ami. C'est comme ça que j'ai commencé, normalement. Mes parents m'ont donné le sens progressivement de mon autonomie, en m'opposant à eux ou en collaborant. Ça dépend des cas. Des quantités de choses, hein. Ma personne actuelle, puisque je fais la philosophie de ce que je suis actuellement, et non pas génétiquement, parce que qu'est-ce que j'étais dans mon berceau? Qu'est-ce que j'étais dans le sein maternel? Qu'est-ce que j'étais au moment de ma conception? Pas grand-chose. Et j'étais entièrement remis à ma mère. Elle aurait pu faire que je disparaisse. Elle m'a gardé. C'est là où on a une reconnaissance si grande à sa mère. Philosophiquement parlant, c'est couper le cordon ombilical au point de vue humain, donc au point de vue moral, et au point de vue philosophique, c'est atroce. Alors, évidemment, il peut y avoir des raisons. L'adoption. Et alors, immédiatement, on met en relation avec une autre mère. Mais le couper pour en faire un orphelin confié à l'État, eh bien, c'est atroce. Parce que l'enfant ne se forme que dans la dépendance. Je dois être attentif à ça. Biologiquement, je vois que tout de suite, ma personnalité et ma personne impliquent un devenir. Il y a un devenir formidable, puisque je suis parti de l'état embryonnaire, de l'état de celui qui vient d'être conçu à la naissance. C'est déjà extraordinaire, toutes les étapes. Et à la naissance, je subis une éducation. Je la subis d'abord. Puis progressivement, je coopère. Et l'éducation, à quel moment elle s'arrête? Je peux, si je suis intelligent, comprendre que grâce à l'amitié, l'éducation continue. Mais à ce moment-là, je m'auto-éduque. L'auto-éducation. Je m'éduque moi-même. Et je vois que cette auto-éducation, elle continue. Je ne peux jamais dire, je n'ai plus besoin d'être éduqué. Je ne peux jamais dire ça. Donc je ne peux jamais dire, ma personne, actuellement, elle est ce qu'elle est, et je veux qu'elle reste cela. Je n'ai pas le droit de dire ça. Je peux toujours acquérir, aller plus loin. Il y a quelque chose d'infini dans la personne. C'est vrai, il y a quelque chose d'infini. C'est le devenir le plus profond qui existe depuis la conception jusqu'à la mort, l'agonie. La dernière parole, puisque même la vieillesse me permet d'intérioriser ma personne. C'est ce qui est si impressionnant devant un vieillard. Sa personne est totalement intériorisée. Il ne peut plus faire de la gymnastique, il ne peut plus faire du sport, il perd la mémoire, il perd, ça n'a pas d'importance. C'est extraordinaire, une espèce de purification et d'intériorité qui va beaucoup plus loin. Donc on peut dire que le devenir dans l'ordre de la personne prend toute la vie humaine est finalisée par la personne humaine, finalisée d'une manière immanente. Parce que, de fait, il y aura d'autres finalités qui permettront cette formation de la personne. Mais la personne se forme tout le temps. Je ne peux jamais dire, si je suis intelligent, je ne peux jamais dire, oui, j'atteins mon sommet. J'atteins mon sommet maintenant, ici, le sommet de ma personne. Oui, c'est très net. Puis maintenant, j'ai plus qu'à... Oui. C'est l'erreur complète de celui qui décrète le moment de sa mort. C'est ce petit film qui a été montré pour montrer le pour et le contre de l'euthanasie. Alors, montrer d'abord un foyer. On l'a vu à Rimont, parce que c'était intéressant de discuter dessus au point de vue philosophique. Alors, on voit un ménage qui s'entend très bien, merveilleusement. Très bourgeois, hein. Très petit bourgeois. Très petit bourgeois. Ils se regardent, ils sont heureux ensemble. En disant, oui, il vaut mieux disparaître ensemble. Il vaut mieux disparaître ensemble. Parce que on se dit, si l'un reste après l'autre, il ne saura plus quoi faire. Alors, vous voyez le plaidoyer, n'est-ce pas ? Donc, quand on commencera à vieillir un peu trop, quand on commencera à infirmer, on se décidera mutuellement. Je voudrais le voir, du reste. Je voudrais voir si on se décidera mutuellement. Je voudrais le voir. On décidera mutuellement, on dit ça avant, mais sur le moment même, on décidera mutuellement de disparaître. On prendra ce qui nous a été donné pour disparaître. On disparaîtra ensemble. On aura une belle mort, puisque ce sera la mort des deux. On ne s'est jamais séparés, on ne s'est jamais disputés. Dans la mort, on disparaîtra. Vous voyez, ça c'est terrible. C'est qu'on définit la personne par la communicabilité à l'égard de l'autre. Hydrocèle. On ne comprend pas que la personne est source de la communicabilité. Et donc je ne veux jamais savoir. Après tout, le veuvage, je parle philosophiquement parlant, peut être source pour celui qui reste d'une autre étape. On ne tue pas le conjoint pour ça, hein, non, non. C'est évident, ça ne serait pas permis. Mais le veuvage que Dieu demande peut être l'occasion. Et c'est vrai, on a tous vu ça. Ce qui ne condamnait absolument pas la communicabilité et qui mettait dans le désert. Surtout pour le chrétien. Oui, accepter la souffrance de la séparation. Et de permettre à la personne autre chose. Vous voyez, c'est ça qui fait que je ne peux pas décider de moi-même du sommet de ma personne humaine. Je suis arrivé là au sommet. Donc, je n'ai plus qu'à disparaître. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que la personne humaine peut toujours se développer. Je ne suis pas le maître de mon âme spirituelle. Elle a été créée directement par Dieu. Donc elle est remise entre les mains de Dieu. Et je peux dire ça philosophiquement. Philosophiquement parlant, je peux découvrir que l'âme est créée par Dieu. Vous direz quand c'est terminé, je ne sais pas, c'est encore combien de temps ? Je sentais bien que vous étiez distrait. Non. Bon, encore 2 minutes alors, pour vous mettre sur la piste. Donc, vous voyez, le devenir, c'est très important ce que je vous dis là, parce que simplement ça supprime toute une certaine conception de la personne. Le devenir dans la personne, la croissance dans la personne, est coextensible à ce que c'est que la personne. Mais ça ne veut pas dire...